Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter une édition spéciale sur les femmes qui se portent candidates à une présidentielle. Il faudra en effet s'habituer à voir de plus en plus de femmes se présenter à une élection présidentielle en Afrique comme ailleurs dans le monde. Car bien qu'elles soient souvent encore largement minoritaires, atteindre ce niveau en politique et souvent rejeter des listes définitives, elles sont bel et bien déterminées à se faire une place dans ces scrutins de plus en plus compétitifs. C'est le cas de Makali Camara, présidente du Front pour l'Alliance nationale en Guinée, qui a obtenu la 6e place sur 12 candidats lors de la présidentielle du 18 octobre
2020. C'était d'abord un challenge personnel de concourir pour cette présidentielle de 2020. Ça s'est bien passé pour moi, vu que toute la Guinée a voté pour moi sur toute l'étendue du territoire. Les résultats l'ont attesté. Même dans les plus petits villages, j'ai vu qu'on a voté pour moi. Ça signifie que le peuple de Guinée est en train de se faire à l'idée que les femmes peuvent aussi diriger à leur destinée. Par contre, les résultats n'ont pas été très satisfaisants parce que ce vote a été biaisé. Des élections vraiment mal conduites, nous n'ayons pas les résultats escomptés tels qu'exprimés dans les urnes. Parce qu'il y a eu beaucoup de manquements. On n'a pas voulu, par exemple, donner les PV tels que prévus par les textes. À chaque candidat, les PV n'ont pas pu nous être remis. Quelquefois, les urnes ont été subtilisées. Quelquefois, il y a eu des bourrages d'urnes. Bon, ceci étant pour une première fois, avec 8 mois seulement de présence sur le terrain politique, je pense que mon parti s'est bien comporté parce que sur 12 candidats, nous avons été 6e.
Madame Camara, l'on sait que les campagnes électorales sont toujours plus difficiles pour les femmes, particulièrement en Afrique. Elles se lancent de plus en plus dans la politique comme vous. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur votre campagne électorale? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a bien moins marché pour que, notamment, vous ayez un meilleur score pour les prochaines fois?
Vous savez, je n'ai pas pu faire le tour du pays vu l'état des routes. Je me suis simplement arrêté sur la partie côtière qui a pour capitale Kindia, pour rallier Kindia déjà qui est à 150 km seulement de Conakry. Il faut 4 heures parce que les routes sont défoncées, très difficile à rallier. Au-delà de Kindia, je dirais pas impossible, mais c'est encore plus difficile. Donc, j'ai pas pu mener ma campagne que par téléphone et par délégation interposée sur toute l'étendue du territoire. Ça étant dit, j'ai aimé faire la campagne parce que je suis une femme d'action. Déjà, j'ai été ministre de l'Agriculture, donc j'ai l'habitude des routes cabossées et de l'intérieur du pays. J'ai été ministre de la Femme. J'ai l'habitude d'aller trouver les femmes dans les zones rurales. Donc, ça m'a permis de me retremper dans mes anciens souvenirs de contact avec les foules. Donc, pour moi, ça a été très, très amusant. Ça a été intéressant. Sauf que je n'ai pas pu faire le tour du pays. Mieux, j'ai été l'objet de harcèlement aussi. Et dans cette campagne, j'ai été gazée, par exemple, à Kindia. Vu l'engouement, l'enthousiasme des foules que j'ai soulevé, parce qu'en tant qu'ancien ministre de la Femme de l'Agriculture, je suis très connu à l'intérieur du pays. Donc, vu l'enthousiasme des foules, je crois que ça n'a pas fait plaisir aux autorités de Kindia qui envoyaient les gendarmes lancer des gaz lacrymogènes dans ma loge officielle. Ça a démontré leur désarroi parce que la violence, c'est l'apanage des faibles. Moi, quand les gaz se sont dissipés, j'ai bien continué ma cérémonie qui était animée par les femmes. J'ai prononcé mon discours. Et voilà, sur Conakry, on m'a empêché de tenir des meetings à des lieux que j'ai indiqués, me renvoyant dans d'autres lieux, mais cela ne m'a pas empêché de faire une très belle campagne parce qu'il y avait foule derrière moi. J'en suis satisfaite, sauf que les résultats ne reflètent pas justement toute cette réalité, ni pour moi, ni pour les autres candidats. D'ailleurs, on sait que nos voix ont été transférées, vidées.
Il vous a d'ailleurs été impossible de voter. Comment vous expliquez cela?
Je ne sais pas, je n'ai pas pu voter parce qu'on a retrouvé ma carte électorale nulle part. Bien évidemment, je me suis fait enregistrer. La CENI dit que j'ai été seulement la dernière fois que j'ai été enregistrée. Ça a été en France en 2015 parce que j'ai été ambassadeur en France, mais de 2007 à 2011. Donc 2015, c'est une fausse date. Je suis rentré en 2011 en Guinée. J'ai voté pour les législatives, les présidentielles dernières. J'ai toutes mes cartes. Ils m'ont déposé mes cartes à la maison. J'ai vérifié, j'ai trouvé que j'avais les cartes de toute ma famille. Hein. Mes enfants sont allés voter, mais ma carte n'était pas là. Jusqu'aujourd'hui, on ne la retrouve pas. Aussi simple que ça. Mais cela vaut pour d'ailleurs des milliers de Guinéens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur carte.
En ce qui concerne les femmes en politique, vous-même, dans votre parti, le FAN, est-ce qu'on est tous ensemble, hommes et femmes, ou est-ce que vous avez aussi un groupement pour les femmes?
Ce n'est pas un groupement pour les femmes. Hein. Le parti FAN regroupe des hommes et des femmes. C'est un parti normal. J'ai deux vice-présidents qui ne sont que des messieurs. Mon secrétaire général est un homme. Et puis j'ai beaucoup de commissaires femmes dans mon parti. C'est un parti normal qui regroupe des femmes et des hommes qui partagent les mêmes idées.
C'est une très bonne nouvelle parce que vous savez qu'on a l'habitude dans les partis, on va dire, ordinaires, de faire un groupement de femmes, n'est-ce pas? Donc c'est une très bonne nouvelle que vous ayez un parti normal, comme vous le dites, Madame Camara. Mais en ce qui concerne la participation des femmes, parce que vous êtes une femme et indubitablement, quand on est femme, on veut que les femmes votent pour nous également, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez pu savoir si les femmes ont voté pour vous?
Beaucoup de femmes ont voté pour moi, bien évidemment, parce que je me suis d'abord adressée à elles, celles qui sont laissées pour compte. Donc, ces femmes-là, qui ne sont pas très visibles, elles sont plutôt dans le secteur économique, dans l'informel. Il faut structurer le secteur informel pour que le travail des femmes soit comptabilisé dans la macroéconomie, dans notre PIB. Il faut par ailleurs aussi s'adresser à nos enfants. Il y a beaucoup de chômage. Le chômage des jeunes est une question importante aujourd'hui dans notre pays et cela concerne aussi les femmes, les mamans. Il faut aussi pour les femmes qui sont dans le secteur public, dans le secteur gouvernemental, il faut trouver des positions de décision à ces femmes pour que nos pays changent. Dans le secteur économique, d'ailleurs, on sait que la femme gère mieux que l'homme quand vous leur confiez des deniers. Donc, bien évidemment, ma campagne, c'est d'abord adressée aux femmes, elles qui constituent le bétail électoral, qui peuvent faire élire les hommes, mais qui ne sont pas élus à leur tour. Je me suis adressée à elles pour dire de prendre leur destin en main et de finalement, après 62 ans d'indépendance, de mettre une femme au pouvoir pour que les choses changent, parce que nous voulons une gouvernance novatrice. Une gouvernance sincère, une gouvernance tout patriote qui va reformer ce si beau pays, ce si grand pays qui est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, 1300 cours d'eau. Nous avons tout pour réussir. Pourquoi nous ne réussissons pas? Après 62 ans, il faut essayer les femmes pour que ce pays soit mieux géré.
Quels sont vos projets à présent, Madame Camara, avant la prochaine présidentielle?
Je vais mieux structurer mon parti parce que je ne couvre pas encore l'entièreté du pays, bien que je me retrouve dans toutes les parties de la Guinée, mais je veux rendre profit mon parti, je veux le tentaculer, je veux qu'il embrasse tout le pays, je veux que l'engouement qui est créé ne puisse pas s'éteindre. Je vais continuer de structurer donc mon parti pour mieux défendre mon projet de société et pour que aux prochaines élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, nous puissions prendre la première place.
Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que la population, les électeurs commencent à accepter, je dis bien accepter, à voter pour les femmes? Bon, c'est un début, on est bien d'accord, mais on attend bien plus que ça, bien entendu, vous l'avez dit vous-même, hein, l'objectif c'est d'avoir à la tête du pays une femme un jour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens puissent voter pour les femmes majoritairement?
Il faut que les femmes s'impliquent mieux. Les femmes ne sont vues que derrière les hommes. Il faut que les femmes puissent s'assumer, défendre leurs projets, se faire entendre, se faire voir. Il faut beaucoup plus de visibilité. J'avoue que la nouvelle génération, beaucoup me découvrent maintenant. Ma génération et celle précédente me connaissent pour les postes que j'ai eu à occuper, 3 fois ministre dans ce pays, député, inspecteur du travail. J'ai toujours travaillé avec la MAP. Donc, ma génération me connaît, celle qui précède me connaît, mais la génération actuelle, j'ai été aussi ambassadeur, donc absente du pays pendant 8 ans. Cette nouvelle génération m'a découverte au moment de ces élections-là. Il faut amplifier cela et que beaucoup plus de femmes viennent dans l'arène politique.
Madame Camara, pardonnez-moi, les mentalités, parce que vous citez tout ce que vous avez fait. Comme vous le dites, vous êtes connue. Il y a des hommes qui ont fait moins que vous en politique et qui ont atteint des scores, on va dire, qui sont beaucoup plus connus au niveau de la sphère présidentielle quand il y a des élections. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à changer au niveau des mentalités?
C'est ce que je dis. Il faut que les femmes acceptent de venir dans l'arène politique, de se faire voir et de vendre leurs idées. Parce qu'à cause de coutumes, à cause de la religion, la femme est toujours derrière l'homme. Là où il y a les hommes, la femme n'a rien à dire, elle doit écouter. Et beaucoup de femmes ont du mal à s'impliquer en politique.
Vous êtes quand même présente, les femmes en politique en Guinée. Vous êtes un bon exemple, vous-même, et vous n'êtes pas la seule.
Mais derrière les hommes, les femmes en politique votent pour les hommes, les femmes en politique font la campagne pour vendre la candidature des hommes.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'intérieur même des partis politiques.
Mais bien sûr, elles parlent pour les hommes, elles vendent les hommes, et c'est les hommes qu'elles mettent devant, qu'elles se mettent désormais devant, qu'elles se vendent elles-mêmes, qu'elles vendent leur potentiel, qu'elles vendent leurs idées, qu'elles soient là en masse. Et je pense que nous sommes en train de tracer les guillemets. D'autres l'ont fait avec nous. Il y a eu 2 femmes déjà candidates avant nous. Nous sommes 2 pour cette année. Je pense que les années qui viennent, beaucoup d'autres femmes auront beaucoup plus le courage de venir en politique. Je pense qu'il faut être là, il faut vendre ses idées, il faut parler aux gens, il faut qu'on se fasse voir, il faut qu'on se fasse connaître. Il ne faut pas seulement dire « Paul est bien, votez pour Paul, parce que votez pour moi, je suis bien, voilà ce que je vais faire pour vous quand je serai là. » La femme connaît mieux la femme. Il faut que les hommes commencent à nous voir dans l'arène politique encore beaucoup plus nombreuses pour qu'ils te fassent à l'idée que c'est possible qu'une femme prenne ce pays un jour.
Alors, Madame Camara, est-ce que vous êtes satisfaite au niveau des quotas, notamment des lois par rapport à la participation des femmes en politique, hein, que ce soit au niveau du gouvernement ou autre, même au niveau du Parlement, ce qui est aussi important, voire plus?
Non, actuellement, les femmes sont sous-représentées partout, aussi bien au gouvernement qu'à l'Assemblée ou ailleurs. Mais les lois, la nouvelle Constitution prône la parité, pourvu qu'on la respecte. Parce que depuis le temps où les Nations Unies demandent aux États de promouvoir au moins dans les sphères de décision 30% de leur population féminine, ça ne s'est pas fait. La CEDEAO a essayé, ça ne s'est pas fait. Nous pensons qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, nous allons pousser de l'intérieur cet avènement des femmes-là. Les lois sont favorables, mais la pratique est tout autre. Mais je pense que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si les femmes ne se lèvent pas pour elles-mêmes, si elles ne se débattent pas pour elles-mêmes, si elles n'ont pas des idées à avancer, si elles ne sont pas sur la scène politique, si elles ne sont pas sur les places publiques pour vendre leur potentiel elles-mêmes, ce sera difficile. Personne ne leur donnera à leur place la place qu'elles méritent si elles ne la prennent pas elles-mêmes.
Madame Makale Camara, vraiment merci pour cet entretien avec nous. Pour le monde au féminin, je rappelle que vous êtes la présidente du FAN, le parti politique FAN en Guinée. Vous avez été candidate à la présidentielle 2020 en Guinée et l'on vous souhaite bien entendu un très bel avenir en politique, hein, en attendant éventuellement votre prochaine candidature. À très bientôt. Bon courage. Hein.
Merci beaucoup Nathalie, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. On ne lâche rien, on avance. Il faut avancer, toujours avancer, travailler pour cela, beaucoup travailler et toujours travailler pour avoir ce que nous souhaitons avoir.
J'ai bien entendu aussi voulu joindre Makale Traoré en vain, deuxième femme candidate à la présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, présidente du Parti de l'Action Citoyenne par le Travail, qui a obtenu 2,72% des suffrages devant plusieurs candidats masculins.
Madame Traoré, qui se définit comme la candidate des femmes et lutte contre les injustices sociales comme Makhaled Camara, a en effet effectué une percée remarquable lors de ce scrutin. Au Burkina Faso, Yeli Monique Kam est la seule femme candidate parmi les 13 retenues pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Elle dirige le mouvement pour la renaissance du Burkina Faso. Les candidatures des deux autres femmes, Justine Koulidiaty et Korotimi Rachiagoreti, n'ont pas été retenues. J'ai joint Madame Kam en fin de soirée après l'une de ses longues journées de campagne électorale.
Comment se passe votre campagne, Madame Kam? Que dites-vous aux gens qui sont encore réticents rien qu'à l'idée de voter pour une femme?
L'idée de voter pour une femme, c'est le contenu du message qui compte, c'est l'engagement qui compte. Et cette année, l'électorat exprime un besoin d'avoir une nouvelle offre. C'est qu'il y a encore des barrières culturelles qui font que, bon, mais aujourd'hui, la pauvreté amène les populations à être plus ouvertes à de nouvelles offres.
Est-ce que vous-même, au sein de votre parti, au sein de votre équipe de campagne, vous essayez quand même de tenir compte de la parité?
J'essaye de tenir compte de la parité. Mais comme je suis en politique, nous essayons de constituer des équipes gagnantes. Je responsabilise des personnes qui sont engagées. Mais j'ai eu la chance d'avoir des femmes engagées à mon côté, telles que ma directrice de communication et de protocole est une femme, la directrice de communication une femme. Et dans les équipes aussi, je mets en avant les femmes.
Est-ce qu'il y a des quotas au Burkina Faso qui sont tenus d'être respectés en matière électorale, au niveau gouvernemental, au niveau parlementaire notamment?
Oui, la loi sur le quota genre a été votée. Donc, cette loi-là favorise la participation des femmes suivant un quota de 30% dans toutes les sphères de décision, y compris sur les listes des élus. Le taux est de 30%.
Est-ce qu'il est respecté d'une manière générale?
D'une manière générale, ce taux n'est pas respecté. Et moi-même, en tant que femme, je n'ai pas pu respecter ce taux.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir parvenir à respecter ce taux? Est-ce que ce sont les femmes qui ne sont pas suffisamment engagées ou est-ce que c'est seulement peut-être qu'elles n'osent pas faire le pas vraiment d'avoir des responsabilités en politique?
Il y a deux raisons principales. La première raison, aujourd'hui, ce sont des motifs financiers. Pour s'engager et tenir, être en avant sur une liste, je veux parler des élections, il faut quand même un minimum de moyens. Donc, pour être tête de liste, par exemple, il faut un minimum de moyens et les femmes n'ont pas. Vous savez, les femmes sont les plus touchées par la pauvreté, mais les femmes n'ont pas la capacité financière. Et deuxièmement, c'est que malgré la volonté des femmes, elles n'ont pas pu se libérer des barrières sociales.
Alors, vous qui êtes femme d'entreprise et vous venez tout juste de parler de la pauvreté des femmes, si vous étiez élue un jour au Burkina Faso, qu'est-ce que vous proposeriez pour les femmes? Parce que vous l'avez dit, les femmes, ce sont celles qui travaillent dans l'informel le plus, qui travaillent beaucoup, qui sont confrontées à la pauvreté. Qu'est-ce que vous proposez dans votre programme?
Et l'éducation, c'est dans sa globalité. Il faut reconnaître que, au plan éducatif, les femmes ont connu un retard, voilà. Donc, à cause du mariage précoce, à cause même des présenteurs socioculturels, les femmes ont accusé un retard sur le plan éducatif. Donc, aujourd'hui, pour favoriser l'émancipation de la femme, cela passera par l'éducation des femmes. Donc, dans ma politique, je prévois une politique vigoureuse de scolarisation des jeunes femmes, des jeunes filles et des femmes, et à travers des formations, à travers la lutte contre le mariage précoce et le maintien des filles à l'école jusqu'à 18 ans. Et donc, c'est seulement par une éducation et la formation que je parle d'anglais, que je suis élue à favoriser l'émergence de la femme et sa participation dans toutes les sphères de décision. Et je mettrai en œuvre un programme de soutien aux miratrices de la femme. Et les femmes n'ont pas accès au crédit. Parce que c'est un cercle vicieux puisqu'elles n'ont pas de garantie. Il faut les former, il faut renforcer leurs capacités. Je dois mener, travailler à ce que les femmes aient d'abord une éducation sexuelle, que les mamans soient éduquées, informées sur les conséquences du mariage précoce et les avantages de jusqu'à 18 ans au moins et les filles à l'école. Ça fait partie de ma politique et de l'émancipation de la femme.
Je reviens à la question des femmes, mais cette fois-ci en tant qu'électrice. Alors, on a à peu près dans toute société, ça varie d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre, on va dire 50% de femmes, 50% d'hommes. Et on a très rarement des femmes qui sont élues à la tête des pays, ce qui veut dire tout simplement qu'une grande majorité de femmes votent pour des hommes. Sinon, si la grande majorité des femmes votaient pour des femmes, on aurait beaucoup plus de femmes à la tête des États. C'est un calcul mathématique hein, tout bête. Donc, qu'est-ce que vous diriez encore une fois pour arriver à convaincre les femmes de voter pour vous? Non pas seulement parce que vous êtes une femme, mais parce que l'on sait que les femmes sont les plus réticentes même à voter pour les femmes, ce qui est quand même triste.
Oui, c'est le constat que vous avez fait par le passé. Mais si je veux apprécier cette campagne, il y a un défi au niveau des femmes. J'ai de la mobilisation, un grand engouement autour de moi. Les femmes, les jeunes filles, sont mobilisées pour soutenir ma candidature. C'est même un motif d'encouragement pour moi de voir que les femmes sont à mes côtés. Mais attendez de voir.
Quels sont les arguments que vous pourriez avoir contre cela? Le fait que finalement beaucoup de femmes et de jeunes, ça c'est une réalité aussi triste sur le terrain en politique, se font manipuler par les politiciens.
C'est un constat bien triste, mais il y a une seule motivation, c'est la pauvreté. Et lorsque nous sommes allés vers les électeurs, nous avons fait de tristes constats de la paupérisation générale de nos populations. Voilà. Donc les populations sont pauvres, notamment les jeunes sans emploi, ils cherchent seulement une ration par jour. C'est pourquoi ils sont facilement manipulables par les politiciens qui peuvent leur tendre, même occasionnellement, une ration par jour. C'est l'état de la pauvreté, et c'est ça mon combat. Le combat pour une éducation de qualité, pour donner des compétences réelles à nos jeunes, à nos femmes, afin de s'auto-employer, à savoir une éducation de qualité qui crée des emplois, qui ont des capacités réelles à nos jeunes. Donc, dans mon projet de société, je prévois la création de centres de métiers dans chaque commune. Un centre de métier par commune, un institut polytechnique par province et une usine de transformation de nos produits agricoles par région. Donc, 13 usines de transformation agricole notamment et agro-silvopastorale. Et l'école est un excellent moyen pour empêcher la transmission générationnelle de la pauvreté que nous vivons aujourd'hui.
Yélie Monique Kam, je vous remercie pour cet entretien avec Le Monde au féminin de VO Afrique. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. Bien entendu, on vous souhaite une bonne chance. Je rappelle que vous êtes candidate à la présidentielle au Burkina Faso du 22 novembre 2020. Je vous dis à très bientôt et bon courage, madame.
Merci.
Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.